Salut à tous, bienvenue sur le Tipcast Coupe du Monde, Tipcast numéro 14, le Tipcast qui va parler de France, Belgique, énorme équipe, énorme Tipcast. Donc pour m'accompagner, mon gars sûr, il vient de fêter la victoire de Djokovic à Wimbledon, qualifié en quart. Salut Nico.
Salut Bas, salut tout le monde. Hey, qu'est-ce que j'ai dit, on fait une petite parenthèse Wimbledon, qu'est-ce que j'ai dit il y a 3 semaines? Posez-vous sur Djokovic, je ne dis rien, laissez le tournoi se faire. Prochain match, Nishikori. Bonsoir à tous.
Mon frérot, Maj Dubens, comment ça va?
Salut Bassim, ça va très bien, très content d'être de retour. Oui, Abicho, très content d'être de retour. En tout cas, franchement, j'ai fait un petit dégradé à blanc ce week-end, franchement, ça me va bien.
Meilleur que Sergio Ramos.
Non, impossible.
Il a régressé en dégradé ces derniers temps.
Ouais, je pense qu'Otamendi, c'est un peu plus...
Ouais,
le niveau un peu plus haut.
Il est passé au-dessus dans la hiérarchie des dégradés.
Tu peux présenter le dernier.
Vas-y.
Vas-y. Et donc, pour nous accompagner, vous en avez l'habitude maintenant depuis le début de cette Coupe du Monde. El pibe de Bordeaux. J'ai nommé Scipionista.
Ah, putain, il est bon ce surnom, je l'avais jamais entendu.
Et voilà, El pibe de Bordeaux.
Il est super sexy. Bah, moi, pas de dégradé. J'ai la coupe actuellement entre Benoît Tremouinas et Adrien Rabiot, donc quelque chose d'assez dégueulasse.
Ah, ça, j'essaye d'imaginer ça un peu. Mais ça fait un peu du pavard.
Non, j'ai pas les bouclettes, moi.
Ça serait du Pastore à son arrivée au PSG.
Ouais, pourquoi pas, il y a quelque chose.
Bon, bah, du coup,
ou du Kejman et Chelsea.
C'est un type casse cheveux, telle coiffure.
Vous comprenez pourquoi le type casse va être temps, parce qu'on va parler de coupe de cheveux.
Et coupe du monde, surtout.
Exactement. Alors, les gars, France, Belgique, on y est en demi. On a beaucoup critiqué la France parce que, à juste titre, pour le jeu, etc. Mais voilà, Deschamps a réussi, entre guillemets, son pari. L'objectif, certes, un petit peu bas, c'était de se qualifier en demi. Ça s'est fait. Globalement, sans grand stress, à part face à l'Argentine, où t'as eu un gros moment de stress. Bon, on va commencer avec l'analyse de Majdi, parce que, y a des gens qui attendent, du coup, donc Majdi va démarrer. Fais-nous du sale, Majdi.
Donc avec deux équipes qui sont en confiance après leur quart de finale, donc la France qui a battu l'Uruguay avec une confiance, pas une sérénité dans le match. Ils ont battu 2-0, il y a pas eu une photo, je pense. Et puis de l'autre côté, t'as la Belgique qui est tombée contre une grosse équipe du Brésil et qui a réussi à faire le poids et à passer. Donc on a deux équipes qui sont plutôt en confiance. Une équipe belge, peut-être un peu plus, puisqu'ils ont impressionné face au Brésil, où ils ont joué pas mal d'encontres, et puis ça allait très très vite devant. Donc je pense que ce sera un match très compliqué pour les Français, parce que je pense qu'ils peuvent pas avoir plus confiance que ça, les Belges, quoi. Et puis, si on doit parler un petit peu de tactique, et des compositions d'équipe, moi je pense que la clé du match va se jouer au milieu, puisque on a vu un milieu un peu surprise avec Fellaini, Witzel et De Bruyne contre le Brésil. Donc là je pense que face au milieu Matuidi, Kanté, Pogba, il y aura match. Et puis dernière chose, il y a aussi, je pense, un élément qui pourrait être en faveur de l'équipe de France, c'est Mbappé. Mbappé, s'il est dans un bon soir, je pense qu'il peut faire la différence dans ce match-là, puisqu'on a une défense, alors à 4 ou à 5, on va dire à 5, puisque Nasser Chadli joue plutôt sur le côté gauche, plutôt latéral gauche, on va dire. Donc je pense qu'avec les trois défenseurs qui sont plutôt lents et un peu lourds, je les trouve, Mbappé pourra peut-être partir dans le dos des défenseurs et puis les prendre de vitesse.
On rappelle la défense à 3, Vertonghen, Compagnie et Alderweireld.
Donc c'est des défenseurs qui sont pas trop, ils sont pas réputés pour être les plus rapides, quoi.
Et pour corroborer un peu tes propos, on a vu le Brésil durant leur confrontation, après l'entrée de Douglas Costa, il a mis un feu pas possible sur le côté gauche belge. Donc il y a moyen qu'Mbappé puisse être l'homme qui fait la différence.
L'élément perturbateur, on va dire, face à la Belgique. Après, faut pas oublier, j'ai oublié de parler de ça, c'est Thomas Meunier qui est absent. Et on verra de qui le remplacera.
Alors il y a deux options. Ça parle de Thomas Vermaelen.
Ouais. Ou
Carrasco, qui jouerait côté droit. Non.
Qui a joué de côté gauche, mais.
Ça parle pas de. Les deux, c'est. De ce que j'entends en tout cas et de ce que je dis, c'est soit Vermaelen, soit Thorgan Hazard, qui a joué côté droit dans le match dans le Biscotto face à l'Angleterre. Du coup, on a d'un côté un choix où tu mets un défenseur central, tu le mets piston droit, et l'autre choix plus offensif où tu mets un ailier, on va dire, de formation, où tu le mets côté droit.
Avec Nasser Chadli qui n'est pas de formation défensive, je pense qu'il optera plus sur Vermaelen après, à voir.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Adrien, tu penses quoi de ce qu'a dit Majdi? Tu penses que Majdi a dit de la merde ou tu penses qu'il a raison?
Non, il a bien résumé les clés du match. Je trouve que par rapport à cette défense belge, il y a des failles à exploiter. C'est vrai que Douglas Costa, j'étais impressionné. D'ailleurs, il y a débat à part, mais qu'il n'ait pas pu jouer la Coupe du Monde notamment parce qu'il n'était pas à 100%, ça doit être un gros regret pour les Brésiliens parce que j'ai trouvé assez énorme. Et après, pour le joueur en lui-même, c'est vrai qu'il y a plusieurs options. J'ai vu le 3-4-3 ou vraiment un 4-4-2. Un 4-3-3 du coup avec le trio magique devant. Donc c'est assez intéressant. C'est vrai que je trouve que c'est un sélectionneur qui finalement fait ce qu'il faisait à Wigan Everton, c'est-à-dire qu'il a une grande flexibilité tactique, c'est-à-dire qu'il s'adapte vraiment selon les circonstances, le contexte, les hommes à sa disposition. Et c'est peut-être le meilleur sélectionneur dans ce sens-là du mondial parce que c'est quelqu'un qui a trouvé les clés pour faire déjouer le Brésil en première période. Je trouve que cette génération-là a fait son match référence, celui qu'on attendait depuis tellement longtemps, tu vois. Genre on se disait Moi, le premier, je reconnais que j'ai souvent dit que c'était des fraudes et tout, parce qu'ils m'ont vraiment déçu. Et j'ai encore plus dit fraude parce qu'ils ont oublié un joueur que j'adorais, qui est Raja Nainggolan. Mais là, je dois juste avouer que, voilà, ils sont en train de faire un tournoi vraiment colossal. Parce que, mine de rien, mentalement aussi, contre le Japon, il fallait revenir, hein, à 2-0, chapeau. Donc voilà. Par rapport aux hommes, c'est vrai que t'as parlé de Chadli. Je trouve que c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Et j'ai entendu qu'il pouvait être suivi par Lyon. Pour le coup, ça, c'est le genre de joueur que j'aimerais bien voir en Ligue 1, parce qu'à Tottenham, je trouvais qu'il était pas mal. À West Brom, j'ai un peu perdu de vue. Mais voilà, après, comme autre clé tactique côté belge, pour l'instant, je n'en vois pas plus.
Petite parenthèse sur Lyon, Adrien. Paris est libre. Si vous voulez nous pétiller un peu plus la Ligue 1 et proposer quelque chose à la place de Pep Genesio, ou en tant que public, on est preneur, hein, voilà.
Ah ouais, mais ça, Pep Genesio va rester.
Malheureusement, c'est dommage, hein, Sarri.
Dommage, j'aurais bien aimé voir Sarri et ses clopes dans le formidable outil connecté qui est...
Ah, c'est surtout, j'aurais aimé voir Sarri avec la jeunesse lyonnaise.
Ah, c'est clair. Bon, du coup, petite parenthèse Ligue 1 refermée. J'ai bien aimé, Adrien, t'as parlé de la flexibilité tactique que propose Martinez avec la Belgique. De toute façon, je pense que t'es obligé d'avoir... la flexibilité à partir du moment où tu mets en place une défense à 3, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps et du coup faut déjà que tu aies des joueurs plutôt intelligents qui arrivent à comprendre ce système qui de base est vraiment compliqué à assimiler surtout pour des joueurs qui sont habitués à jouer dans des défenses à 4. Et j'ai beaucoup aimé moi les choix tactiques faits avant le match face au Brésil, j'en avais parlé dans le podcast d'avant où j'étais quasiment sûr qu'on ne reverrait pas la même équipe que face au Japon, parce que c'était pas possible que De Bruyne joue aussi bas et qu'on le laisse un peu livré à lui-même avec Witzel à la récupération, et qu'on laisse Mertens au final juste pour... Je trouvais que c'était pas assez équilibré, et sans parler du fait que Yannick Ferrara-Carrasco est absolument horrible défensivement. Au moins... Tu vois que le mec n'a pas été têtu dans ses idées, il a pris le risque, on va dire, de changer juste avant le match face au Brésil, et ça a apporté ses fruits, et je pense que ça a également surpris Pitch côté brésilien.
Ouais, Nico. Et juste par rapport à ce que tu as dit, Adrien, aussi, c'est très juste, c'est leur match référence contre le Brésil. Ça me fait penser un petit peu aussi à l'équipe de France qui attendait un match référence dans des matchs à l'élimination directe. En l'occurrence, à l'Euro 2016 contre l'Allemagne où ils battent l'Allemagne et justement, ils arrivent à aller en finale. Est-ce peut-être que ça va justement mettre en confiance ces Belges-là pour aller le plus loin possible, quoi.
C'est sûr, de toute façon, quand tu bats le favori, ça booste ta confiance. Les Belges étaient underdogs sur ce match, ils ont montré
bah, une capacité de se surélever face à l'adversité et logiquement ils sont au maximum de leur confiance. Nico, on t'a pas encore entendu à part sur ta petite parenthèse Sarri. Tu penses quoi de ce match?
Qu'est-ce que je pense de ce match? Je pense que vous avez déjà tout dit concernant les clés du match. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter dessus. Si ce n'est que ce qui me fait vraiment peur, en fait, c'est la vitesse des Belges. Ils en ont aussi. Beaucoup. Après, voilà, ce qui me rassure, c'est franchement, honnêtement, la doublette Kant et Pogba. Moi, personnellement, je suis serein quand je les vois sur le terrain. Défensivement, ça verrouille bien. On n'a pas vu beaucoup d'équipes nous mettre en danger, à part l'Argentine. Mais encore une fois, l'Argentine, c'était un match Bundesliga. Il y a eu 100 minutes de tactique et après, c'est parti en couille. Donc, moi, j'ai pas vraiment grand-chose à rajouter de plus sur ça, quoi. La chance qu'on a, c'est que la Belgique va jouer avec une défense, on va dire, un peu inédite. La Belgique est plus cramée physiquement que la France, parce que, mine de rien, remonter deux buts d'écart en huitième de finale et sortir le Brésil, même si c'est en 90 minutes, ils ont bouffé énormément d'énergie, contrairement à la France.
Ouais, mais l'intensité du match entre l'Uruguay et la France était quand même très élevée. On a vu énormément de coups côté uruguayen.
Ce que je veux dire, c'est que la France
a eu
en fait, si tu veux,
qui sont entraînés à part aujourd'hui côté français.
La France, elle s'est quand même, on va dire, après le deuxième but, elle a quand même su tranquilliser son match.
C'est vrai.
Là où les Belges ont marqué quand même deux buts très tôt, donc ils ont été sous pression pendant tout le reste du match. Puisqu'après, c'est pas la même force offensive entre entre le Brésil et l'Uruguay non plus. Donc, je pense que physiquement, la France est dans de meilleures conditions. Par contre, mentalement, c'est du kiff-kiff. Entre remonter à deux buts d'écart et battre le Brésil, qui était l'ultra favori de la compétition d'un côté, et de l'autre, avoir pu prouver en fait au final que la France était capable de marquer et de donner du plaisir contre l'Argentine parce qu'on a vu un beau match, même si tactiquement il y a beaucoup de choses à redire, même s'il y a eu des faiblesses défensives, ils ont quand même répondu aux critiques, on va dire, des phases de poule. Et derrière, on les attendait face à une équipe solide. On s'est dit qu'ils auraient du mal à faire péter le verrou. Varane, il a pris une belle revanche face à 2014. Sur coup de pied arrêté. Je m'attendais vraiment pas à ce que la France marque sur coup de pied arrêté contre Uruguay. Ils l'ont fait. Je m'attendais pas à ce que Lloris soit d'un tel niveau en Coupe du Monde. Il l'est, pour l'instant. Il l'est. Parce que sa parade face à Caceres, je pense qu'elle nous qualifie.
Oui.
Très clairement.
On va avoir un beau match-up de gardiens, de toute façon.
Oui, exactement, côté, parce qu'on a deux gardiens qui sont en feu. Il n'y a rien à redire ni sur l'un ni sur l'autre sur la compétition. Donc, on se retrouve vraiment dans un match où j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin, pour le coup, c'est difficile de sortir un vainqueur parce que ça va être très équilibré. On sait que la France, offensivement, dans la percussion, elle peut faire mal par rapport à la défense belge qui est quand même très lente. On sait qu'au milieu de terrain, normalement, ça va batailler sec. Techniquement, je pense que Pogba Kanté, c'est plus fort que Witsel Szczęsny. Après, seul problème, c'est que...
Le problème, c'est qu'après, t'as De Bruyne qui peut s'intercaler au milieu de terrain.
Exactement.
Il a joué sur un poste un peu faux neuf face au Brésil. Encore une innovation tactique qu'on a eu souvent... Lukaku côté droit.
Mais c'est ce qu'on avait reproché. On avait reproché que De Bruyne était trop reculé, trop en retrait. Il a joué un faux poste. Et ben, putain, on l'a bien vu.
Après, je pense que vous
l'avez dit, ce serait un match avec beaucoup de duels. On a parlé du milieu de terrain. Mais je pense que la Belgique, quand même, ils auront quand même plus de mal que face au Brésil où ils avaient peut-être un peu plus d'espace et plus d'opportunités d'aller en compte, alors que l'équipe de France, on sait que c'est une équipe un peu plus frileuse qui est très bien en place. On a quatre vrais défenseurs et puis un milieu à trois avec Matuidi, Kanté, Pogba. Je pense que ça verrouille quand même bien et que ça va laisser peut-être moins d'espace aux Belges pour aller en compte.
Tu sais ce qui me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est l'état de forme de Lukaku. Voilà. Moi, quand j'ai vu traîner trois défenseurs brésiliens sur le dos,
Ah, mais il a fait un boulot de pivot NBA, tu vois.
Non, mais c'était.
Franchement, c'était. Du Shaq dans ses.
Le de toute façon, il fait une Coupe du Monde monumentale.
Depuis le premier match hein, face au Panama,
où
j'avais été déçu. Les Belges, globalement, je ne trouvais pas du tout dans l'esprit qu'il fallait. Lui, Lukaku, lui, a été très bon sur ce match, très sérieux, et il continue. Et il est intelligent, ce qu'il fait sur le but de De Bruyne, c'est exceptionnel. Parce que vraiment, physique, puis ensuite vitesse, et ensuite précision au niveau de la passe, avoir la lucidité pour faire une bonne dernière passe. Après, De Bruyne, un sang-froid.
Et je le répéterai jamais assez, mais contre le Japon, avoir la lucidité à la 94e minute de jeu de sentir ton coéquipier derrière et de laisser passer alors que le mec, que tu le vois absolument pas. Ça prouve à quel point Lukaku est en train d'évoluer aussi.
On est d'accord que la saison qui craque Manchester United, on a eu un Lukaku qui était complètement différent à Coupe du Monde. Hein.
Qui est cantonné de toute façon à rester aux 18 mètres.
Oui, c'est
quelque chose. Il a un peu plus de liberté en Belgique.
Après, je pense que Mourinho est un. Mourinho est un entraîneur qui fait beaucoup de mal parfois à ses neufs. Et on l'avait vu avec Benzema à un moment donné. C'est pas facile d'être neuf quand tu joues les ordres de Mourinho. Par contre là, avec la Belgique, il a un autre rôle. Déjà, c'est un leader avec la Belgique. Il prend la parole, il fait partie vraiment des cadres de cette équipe. C'est le mec, c'est le meilleur buteur de la sélection belge et je crois même de l'histoire. Côté belge, donc à partir de là, tu vois le niveau du bonhomme. Mais je t'ai coupé.
Non, t'as tout à fait raison. Et puis, ce que j'allais dire, c'est que j'imagine même pas si on avait eu un Lukaku en équipe de France à la place de Giroud, parce que Giroud, son niveau est deux fois moins élevé que Lukaku. On attend justement d'avoir un numéro 9 comme Lukaku qui pèse vraiment sur la défense et qui sait jouer en remise, qui sait prendre la profondeur, et qui marque quand il faut. Donc là, je pense qu'il y aura plusieurs duels dans ce match-là, et en l'occurrence, ça va être très très dur pour Umtiti, parce que je pense que c'est lui qui sera sur Lukaku, de le prendre et puis d'être le premier sur le ballon, parce que si on laisse Lukaku prendre la balle, je pense que c'est compliqué de le reprendre.
Vas-y Adrien.
Non, par rapport à Lukaku, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître entre guillemets paradoxal, mais je pense que avoir joué avec Mourinho, ça lui fait du bien parce que tu as dit quelque chose de très juste avec Mourinho, cet entraîneur-là. Les neufs ont un rôle ingrat, d'un peu de sacrifice, de don de soi. Je me souviens notamment de Milito. Et en fait, c'est lui-même qui l'a dit. Il l'a dit par ses mots, je ne sais plus comment exactement, qui disait que ça lui apprenait un peu à ce sens du sacrifice, à se mettre plus en avant. Et pourtant, il a de bonnes stats, mais je pense que ça lui a servi. Aujourd'hui, je pense qu'il a vraiment compris qu'il avait un vrai rôle dans une équipe au-delà du rôle de numéro 9. C'est-à-dire, bon, on sait qu'il a des qualités de pivot, mais tu vois, c'est typique, cette percée de balle, c'est le genre de truc qu'il n'aurait jamais fait il y a un an.
C'est clair.
Cette espèce de confiance, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est ce surplus d'âme qu'il a trouvé à la fois avec Martinez, à la fois avec Thierry Henry, à la fois avec Mourinho, un peu ce mélange des trois qui ont fait que c'est venu cette bête aujourd'hui.
Si je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Adrien, parce que faut pas oublier que Lukaku était énorme à Everton sous les ordres de Roberto Martinez aussi.
Exactement.
Donc, je pense que c'est pas un hasard, comme tu dis, pour ce que tout a dit, vous m'avez compris, je vais pas me reformuler, je suis fatigué. Mais que Lukaku soit à 22 buts sur les 18 derniers matchs internationaux, c'est pas un hasard.
Et t'as raison de parler de ça. Déjà, il a une tendance à prendre l'initiative. On voit pas ça avec Mourinho. T'as raison, Mourinho fait apprendre beaucoup de choses à ses neufs. Mais parfois, si t'es pas en confiance, Mourinho c'est pas le genre d'entraîneur qui va te mettre en confiance.
On loue beaucoup le travail de Thierry Henry ces trois dernières semaines. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et tu vois bien que déjà, face au but, c'est pas la même personne, Lukaku. Dans la surface, c'est pas la même personne. Je pense que ceux qui ont vu les matchs de United cette saison, et même des personnes à l'époque, vous êtes d'accord pour dire que dans la surface de réparation, Lukaku n'est plus le même joueur.
Donc, c'est différent, Nico, en fait, quand t'as quand t'as un mec sur le banc qui sait qu'il te fait totalement confiance et même si tu marques pas, tu vas rester.
Alors après, attention, Murillo fait énormément confiance à Lukaku.
Oui, mais on s'est retrouvé à des moments en deuxième partie de saison, il ne faisait pas jouer Lukaku.
Ah, mais après,
il mettait souvent Rashford seul en pointe. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'Alexis Sanchez. Mourinho, parfois, après moi, c'est surtout le ce dont je me rappelle au Real, parce que je suis moins la première ligue que toi. Mais Mourinho, c'est le mec, si à un moment tu marques pas, bah, il te fait sortir, il te prend un Adebayor au mercato d'hiver, parce que voilà, c'est un mec, il hésitera pas à te tacler. Alors que Martinez, il est peut-être dans une relation plus affective avec,
comme après, franchement, avec Lukaku. Bah, cette année, Lukaku, je te garantis, il a pas loupé beaucoup de matchs, hein. Je te le dis. Il a pas loupé beaucoup de matchs, hein.
Ouais, mais moi, j'avais Adrien?
Non, par rapport à cette question de Mourinho et le turnover, c'est vrai que, à part, je pense, Derea et deux, trois rares défenseurs, tout le monde y est passé dans cette période où je t'ai pris en grippe deux, trois semaines, comme Pogba, comme d'autres, et après, t'es revenu dans l'équipe. Donc, Lukaku l'a eu aussi au moment où ils ont perdu à Brighton, je crois, et il était sur le banc, c'était un peu bizarre, mais après, il est revenu et c'est très bien passé.
Ouais, mais c'est pour ça, c'est moins facile pour un neuf, et on reprochait beaucoup cette saison à Lukaku de pas marquer dans les gros matchs. Bah, peut-être que s'il avait un coach qui lui faisait plus confiance, comme Roberto Martinez, avec qui il s'est révélé à Everton, bah, c'est, le mec va jouer différemment. Mais tu as parlé d'un joueur
coach. Mais je crois que c'est le déclic de Lukaku, si je puis me permettre, et si je dis pas de conneries, si j'ai bonne mémoire, le déclic de Lukaku cette saison, il vient contre avec le match contre Chelsea, à Old Trafford, où ils sont menés très tôt 1-0, et derrière, Lukaku met un but magnifique, et ça, comme c'était au mois d'avril, je pense qu'il y a eu un déclic aussi à ce moment-là. Le mec est arrivé quand même avec une belle saison, au final, à United, parce qu'on a beau critiquer, mais United finit deuxième de Première Ligue, derrière l'Antwerp City. Bon, ils sont sortis piteusement en Ligue des Champions, mais c'est ça, on va pas y revenir.
Et il marque d'ailleurs face à Séville.
Face à Séville.
Je me rappelle, je l'avais titré, je me souviens.
Ouais. Bon, ils perdent 2-1. Et puis, il avait quand même souffert match aller-retour face à l'Anglais.
Ouais.
Mais, je veux dire, il n'est pas arrivé en Belgique en déficit de confiance. Et quand tu arrives avec une saison où tu plantes 27 ou 28 buts TTC, et t'arrives avec, comme on l'a dit plus tôt, dans un environnement de vraie confiance, avec un coach qui t'a toujours fait confiance à Ayrton, avec Henry qui a l'air psychologiquement, de toute façon, Henry, quand tu l'écoutes parler football, on en a souvent parlé, Bastien, un mec, dans les documentaires, dans les interviews, il en donne
pas de bois, tu bois
ses paroles. Mais quand tu parles, tu bois ses paroles, tu bois absolument toutes ses paroles, c'est concis, c'est clair, c'est net, c'est football, c'est tout ce qu'on demande. Donc je pense que psychologiquement, un mec comme Thierry Henry doit être extrêmement bénéfique à un numéro 9 parce que c'est un truc qui doit, à mon avis, permettre de trouver la confiance. Et c'est pour ça que je pense que Thierry Henry sera aussi un grand coach, à mon avis. Mais bon, ça, on avance un peu.
Avant de parler du cas de Thierry Henry, je sais que Nico, de toute façon, t'as envie d'en parler, on en parlera. Mais vas-y, t'as parlé du duel avec Umtiti. Umtiti est vraiment pas en forme. On l'a vu face à l'Uruguay, c'était l'un des plus mauvais pour moi côté français. J'ai souvent touché le genou. Je pense qu'il traîne une blessure depuis peut-être quelques temps, même avec le Barça, parce que je le trouve vraiment pas en forme sur cette Coupe du Monde. Est-ce qu'avec un mec, on a vu l'état dans lequel était Miranda à la fin du match, vu comment Lukaku l'a usé, est-ce que vous pensez que Umtiti est à 100% de ses capacités, et est-ce que vous, on sait que Deschamps le fera jouer, mais est-ce que vous, si vous aviez le choix sur ce match, vous metteriez pas un mec comme Kimpembe qui est plus frais et qui aura peut-être plus d'agressivité et qui sera à 100% de ses capacités pour tenir Lukaku?
Oui, mais après, moi, mon avis est biaisé parce que de toute façon, Kimpembe, je le mets titulaire partout. Donc,
Parce que on critique beaucoup Umtiti, mais sincèrement, Umtiti, il faisait une très bonne saison avec le Barça jusqu'à
les affaires de prolongation.
Mais je pense que c'est aussi au-delà, parce qu'il l'a eu après sa prolongation, je pense qu'il vraiment il se traîne une blessure. Et il s'était blessé à un moment au Barça, il n'est jamais revenu à 100% de sa blessure. Et ça se voit sur le terrain. Et là, le problème, c'est que bon, Suarez est un très bon attaquant, mais c'est pas le même profil que Lukaku. Et là, notre défense n'a rencontré aucun joueur du profil de Lukaku. Un mec qui va être dur, qui va être usant,
et qui va physiquement demander à ce que tu sois à 100%. Et là,
je pense que physiquement, à Torcy à l'heure actuelle, et surtout si Umtiti n'est pas à 100%, il n'y a pas photo sur qui est le plus puissant entre les deux.
Ah, mais et Varane, c'est pas un mec qui va s'imposer par la puissance.
Non, par contre, Varane, sa vitesse, elle nous fera du bien.
C'est monsieur propre, mais voilà, la vitesse et tout. Et sur la puissance, sur le combat physique, je miserai pas sur lui. Donc Lukaku aurait peut-être un coup à jouer sur ce match. Quel autre match-up vous voulez parler côté droit français, Pavard face à Hazard qui a fait pour moi son match référence. Je l'ai jamais vu à un tel niveau dans un match aussi important. Vous en pensez quoi de cette confrontation entre Hazard et Pavard sur le côté? Pas rien, très bien.
Oui, non, c'est simple. Ça va être un duel assez âpre, je pense. Après, Hazard peut-être qu'il tournera autour de Lukaku. Peut-être pas forcément que sur le côté gauche ou que sur le côté droit, je pense qu'il tournera un petit peu autour de Lukaku. Peut-être que N'Golo Kanté va le prendre aussi avec un des latéraux aussi. Hein. N'Golo Kanté, c'est celui qui, à mon avis, il va aider à la fois Umtiti ou Kimpembe pour Lukaku et puis peut-être aussi un des latérales pour Hazard. Quoi.
Ouais, mais le problème, c'est que tu as De Bruyne aussi.
Après, De Bruyne, oui, voilà.
C'est ça la grosse problématique défensive de l'équipe de France. Pour moi, c'est si tu te retrouves avec donc De Bruyne et Hazard, les postes avancés, et avec un Lukaku qui va vraiment occuper ta charnière centrale, tu te retrouves avec deux poisons et tu dois choisir lequel tu dois un petit peu laisser parce que t'as pas les ressources nécessaires pour garder tout le monde.
Tu penses qu'on n'a pas les ressources nécessaires? Je pense que justement on a assez de défenseurs comme ça dans l'équipe.
Mais les deux sont très libres. Le problème,
t'as quatre défenseurs centraux qui sont titulaires. T'as N'Golo Kanté en plus qui, le mec, il est partout sur le terrain. Tu vois que lui. Je crois que ça doit être lui qui a récupéré le plus de ballons dans la Coupe du Monde, à mon avis. Hein. Donc je pense que t'as largement les forces pour pallier à Hazard et à Lukaku. Hein. Et
le problème, c'est que c'est des gars très très libres. C'est des mecs qui vont pas hésiter à changer de position. Donc le fait d'avoir Pavard ou d'avoir même Matuidi, on va dire, et milieu gauche, ouais, pas forcément gauche. Ça qui va t'aider. Parce que au final, De Bruyne n'hésitera pas à revenir vers l'axe, Hazard non plus.
Ouais, mais si tu reviens vers l'axe, t'as N'Golo Kanté. Si tu vas sur la gauche, t'as Matuidi. Si t'as toujours quelqu'un qui a plus un profil défensif, quoi, c'est ça que je veux te dire.
Ouais, à voir si Matuidi, j'ai pas forcément kiffé face à l'Argentine. On va se retrouver encore avec Matuidi là sur ce match. Ça sera pas, même si Lucas Hernandez avait sorti l'argument de oui, on a réussi à bloquer Messi. Et là, c'est tout autre chose parce que déjà, je pense qu'Hazard est beaucoup plus en forme sur cette Coupe du Monde que Messi ne l'était. Après, ça n'est que mon avis. Ensuite, t'as également le cas De Bruyne à régler. Plus le cas Fellaini. Parce que Fellaini, c'est peut-être pas le meilleur milieu de terrain du monde, mais de par sa taille, c'est un mec qui peut très vite se transformer en deuxième neuf. Donc si tu te retrouves dans l'axe à devoir marquer et Lukaku et Fellaini, c'est un gros problème. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là-dessus, je pense que défensivement, l'équipe belge va nous faire très mal, même si on a une bonne défense, aussi bonne que les Belges en nombre de buts encaissés. Je pense qu'il y a des match-ups qui peuvent vraiment nous mettre en difficulté et ils peuvent appuyer sur certains de nos points faibles, notamment, je pense, le domaine aérien.
Ouais, je suis assez d'accord. En plus, on n'a pas de... Enfin, si, on a peut-être Paul Pogba qui est grand... au milieu, mais sinon c'est pas N'Golo Kanté qui va aller chercher Fellaini, quoi. ni Matuidi, donc c'est vrai qu'il y a peut-être un déficit à ce niveau-là. Maintenant, je sais pas pourquoi je suis plus confiant en la victoire de l'équipe de France et pourquoi pas un but de Mbappé. Du coup, c'est un peu mon type, c'est Mbappé buteur avec l'équipe de France, donc je sais pas, je suis confiant en la victoire de l'équipe de France.
Bah, du coup, balance
et plus certitude défensive et puis après offensivement, comme je t'ai dit, on a trois défenseurs qui sont un peu lents derrière. Mbappé peut potentiellement se régaler s'il prend l'espace, quoi, s'il part dans le dos des défenseurs.
Du coup, tu vas tipper quoi, Mazé, sur ce match?
Moi, je tippe Mbappé justement à 3,25. Après voilà, on sait que c'est un match compliqué contre la Belgique, que c'est une demi-finale, c'est compliqué à parier, mais à pronostiquer. Mais moi, je vois quand même les deux équipes marquer. Je vois pas comment comment la Belgique ne pourrait pas marquer avec avec sa puissance offensive. Et puis pareil pour les Bleus. Donc moi, je vois l'équipe de France ou le nul avec les deux équipes qui marquent. C'est coté à 2,30. Voilà.
Très bien.
Et les gars, 3,25. Hein.
Voilà. Les gars, je reviendrai vers vous avec avec vos tips. On va commencer à appeler nos invités. Donc un nouveau dans l'équipe.
Et du coup, Majdi peut rester, non?
Pour l'instant, non, parce qu'il y a deux invités. Mais pour l'instant, vu que mon frère est pas encore là, on va juste inviter Daniel. Donc Majdi peut continuer à rester. Majdi continue de parler. Je sais que t'as plein de choses à dire.
Là, le coach m'a renvoyé Byram sur le s'échauffer.
Ouais, je lui dis, écoute, non, pas, t'es pas encore frais. Pose la clope et va vraiment.
Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais pour moi, Mbappé buteur, c'est je vois bien. Je sais pas ce que t'en penses, Nico.
Écoute, si franchement, moi, j'aimerais beaucoup qu'il marque. C'est de toute façon le danger offensif numéro un de l'équipe de France. Que se passera-t-il si Mbappé qualifie l'équipe de France en finale? Je parle pour la course au ballon d'or, je me chauffe peut-être un peu, mais est-ce que ça se tapera avec Modric ou est-ce qu'il sera potentiellement candidat pour vous au ballon d'or?
Moi, je pense que oui, parce que, à part si Modric la gagne, mais à mon avis, s'il sort une grande demi et puis une grande finale, au moins, il a ses chances.
Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
Adrien, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bien que la Coupe du Monde soit revenue, le Ballon d'Or soit revenu un peu à cette ancienne formule où le prisme des grandes compétitions l'emporte sur les extraterrestres et les statistiques. Ouais. Ce qui veut pas dire que ça remet en cause que la décennie que viennent de faire Ronaldo et Messi, mais je pense que cette Coupe du Monde marque une espèce de petit tournant dans l'avènement peut-être d'autres forces, je sais pas, à voir si Hazard régale en demi en finale. Moi je dis pourquoi pas, même s'il a été éliminé précocement.
Et plus pour régaler, De Bruyne s'il régale. De Bruyne a un coup à jouer aussi.
Juste, je présente notre invité, du coup il est venu également pour régaler. Salut Daniel.
Salut les gars.
Salut Daniel.
Ouais, ça me fait super plaisir d'être là depuis le temps que ça doit se faire. Des zones, malheureusement, ça peut pas, c'est pas toujours facile, mais en tout cas ça me fait plaisir d'être là.
Ouais, mais
j'espère que je serai à la hauteur pour faire plaisir à tout le monde.
Bon, t'inquiète.
En tout cas,
ça me fait plaisir de t'avoir.
Tu rentres en demi-finale, donc,
Ouais, ça va.
Mais du coup, j'aime beaucoup, moi, ce débat sur le ballon d'or. C'est intéressant de parler un peu de passage de témoin surtout vu qu'on, en parallèle à cette Coupe du Monde, on a le départ potentiel de Ronaldo vers la Serie A et du coup, de la lutte entre Messi et Cristiano. Et peut-être, des nouvelles forces qui commencent à émerger, donc Mbappé. Il y a le petit Luka Modric quand même, hein, côté croate.
Oui,
il a fini trois fois.
Je l'ai opposé directement à Modric.
Ouais,
pour moi, Modric, de toute façon, vu la saison qu'il fait, vu comment il porte la Croatie, techniquement, si on devait voter aujourd'hui, franchement, je vois pas pourquoi il le mériterait pas, tu vois.
On avait eu ce débat un petit peu chez Beurre FM, du coup, ça me permet de les saluer. Il y a un élément, moi, par rapport à Mbappé et le Ballon d'Or, c'est sa jeunesse. Le fait que dans son équipe, c'est Griezmann qui a remporté une Coupe d'Europe cette année, qui avait une performance assez exceptionnelle en finale de Coupe d'Europe. Tu fais une Coupe du Monde globalement moyenne, mais l'histoire retiendra son nombre de buts.
Pour Ronaldo, Owen, ils n'étaient pas bien vus.
Je suis d'accord, mais regarde Owen comment ça a fini.
Oui, mais attends, Owen comment ça a fini?
Il fait une super Coupe du Monde, je suis d'accord, mais...
On n'est pas
dans la même équipe. Le problème, c'est que dans la même équipe, t'as Griezmann, une très bonne saison également. Et qui fait. Il en est à 3 buts, tu vois.
Dont 2 pénalties.
Mbappé,
il y a un de ses buts qui vole un petit peu à Giroud. Il a juste à la mettre au fond. Donc,
le truc, c'est qu'à chaque fois que t'as un déséquilibre, à 80% du temps, des attaques françaises, à chaque fois que t'as un déséquilibre dans la défense adverse, c'est provoqué par Mbappé.
C'est
Parce que après les pénaux, bah dis-toi, demain si Kane il ramène une Coupe du Monde à l'Angleterre, bah lui aussi il peut avoir son ballon d'or, hein, même s'il a mis 5 buts sur pénaux sur cette Coupe du Monde. On retiendra surtout son doublé face à la Tunisie.
Bah, bravo.
Les gars, le parallèle avec Owen, je le trouve assez intéressant pour Mbappé, mais la différence c'est qu'Owen, il gagne le ballon d'or en 2001. Donc c'est une année où il y a pas de compétition internationale, donc déjà c'est décidé uniquement sur les compétitions de club. Donc déjà ça limite déjà pas mal la chose.
C'est vrai.
Mais c'est Mbappé, pour ça que je dis que Mbappé a sa chance à jouer cette année. Outre la jeunesse,
tu vois,
okay, on est d'accord.
Vraiment comme révélation, plus même si c'est pas une révélation pour nous qui suivons la Ligue 1, mais une révélation aux yeux du monde, plus que comme un ballon d'or. En fait, j'ai vraiment du mal à l'imaginer ballon d'or comme ça à 19 ans.
Bon,
ça serait beau pour lui, hein. Certains parlaient également de Varane ballon d'or. Je sais pas quoi de ça.
Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est vraiment, vraiment pas la star du Real Madrid. Loin de là. Et puis c'est vraiment un mec qui est pas du tout bankable, et malheureusement ou pas, le ballon d'or, ça récompense aussi le type qui aux yeux des médias et au niveau commercial est vachement important. Et Varane c'est l'anti-ça.
Parce que Cannavaro était pas super bankable.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais quand même, Cannavaro, il avait quand même un charisme, il dégageait quelque chose. Varane, c'est pas,
Dans son équipe,
hein.
Dans son équipe, il y avait Buffon quand même, il y avait Pirlo niveau charisme. C'était un petit level aussi quand même de Cannavaro.
Ah, mais c'était quand même un leader, Cannavaro.
Cannavaro, le mec jouait à la Juve, avec tout ce qui s'était passé autour de la Juve à ce moment-là, le donner à Cannavaro, tu veux le donner à un Italien, ok, mais Cannavaro, c'était pas forcément le meilleur choix, hein. Même s'il fait une Coupe du Monde énorme, hein, rien à dire.
Je suis d'accord avec toi, mais quand on compare Varane et Cannavaro, je pense que c'est deux personnalités différentes et que Cannavaro il a quand même plus d'aura et plus de charisme que Varane. Donc quand on parle de joueur bankable, pour moi Cannavaro l'est plus que Varane, quoi. Donc je vois pas du tout Varane ballon d'or. Après, s'il marque encore en demi et puis en finale, pourquoi pas, mais je vois pas du tout.
Et puis Cannavaro, en 2010, il devait avoir 33 ou 34 ans, donc il y avait aussi une certaine forme de récompense pour la carrière, comme on a toujours voulu le faire pour Maldini, pour Buffon, pour des dizaines de gars. Et lui, c'est peut-être le seul mec qui a un petit peu profité de ça un moment.
C'est vrai.
Daniel, il est arrivé direct, en 5 minutes, il a régalé, hein. Il a sorti les âges et tout.
Ah là, il a révisé ses fiches.
Il
avait les fiches ballon d'or.
On dirait la première
rentrée de Florian derrière.
C'est notre putain, comment il s'appelle, Geoffroy Garrigier.
Bah, du coup, Daniel, ton analyse sur ce match, sur ce France-Belgique.
Bah, honnêtement, c'est vachement compliqué. Moi, une chose qui me fait assez peur pour l'équipe de France, c'est que je pense que les Belges, ils ont l'histoire du complexe d'infériorité contre la France. Ils vont arriver avec les dents qui rayent le parquet demain.
Daniel, je me permets juste de te dire. Et rentrer direct en opposition avec Bassim, et ça va donner un joli débat, je pense, parce que Bassim parlait de complexe de supériorité de la France.
Ok, bah c'est cool. Mais au-delà du foot, je parle plus de ça dans l'aspect national. Les Belges ont une image assez négative des Français parce qu'ils considèrent qu'on les méprise. Ce qui est un peu fort mais qui est pas non plus faux, et donc du coup je pense que demain ils vont arriver avec les dents qui rayent le parquet, un peu comme, franchement c'est un match qui est complètement différent, mais il y a un truc qui est un peu
avec
France Portugal. Alors les gars, c'est portugais, je suis désolé de ressortir ça.
Non mais Daniel, t'as totalement raison,
mais il y a un côté qui ressemble un peu à ça. Après, est-ce que les Belges, ils vont pas se retrouver dans un truc qui est un peu trop gros pour eux demain? Je me le demande aussi. Du coup, il y a des exemples et des contre-exemples dans tous les sens. Mais honnêtement, moi, la partie qui me fait un peu douter, qui me fait un peu flipper pour la France, c'est que les mecs, je pense sincèrement qu'ils vont arriver à bloc demain.
parce que c'est la plus belle chose de leur carrière qui puisse leur arriver, c'est d'arriver en finale de Coupe du Monde, et alors en battant la France, c'est tiré sur le gâteau, quoi.
Totalement d'accord. Et c'est un élément, et t'as raison de faire le parallèle avec les Portugais, parce qu'en plus avec le Portugal, il y avait également un petit complexe de supériorité sportive du fait que la France réussissait très bien face au Portugal.
Ouais.
Donc les mecs en face sont arrivés survoltés avec une énorme énergie là-dessus, et je sens que les Belges, il y aura la même énergie face à la France.
Le Portugal avant la finale de l'Euro 2016, il avait perdu 3 fois contre la France, c'est ça? En 2000, Euro 2000 et Coupe du Monde 2006.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Et à chaque fois dans des matchs un petit peu polémiques, tu vois. Le péno de Zidane en 2006, les Portugais ne l'avalent pas. Ouais. La main d'Avel Xavier, un truc qui, je pense, Daniel ne s'en remet pas.
Carrément. La tristesse de ma vie.
Moi, c'était surtout de cette coupe de cheveux que je m'en remets pas.
Ah, ça, c'est vrai, ça.
Ah ouais, c'est vrai.
De toute façon, on a un fil conducteur sur ce Tifcast, c'est les coupes de cheveux.
Ah bah là, mais t'avais pas les maillots. Avec Abel Xavier, les gars, vous avez un bon gars.
Bah, du coup, Mazi, tu vas pas tarder à nous quitter. Ouais. Est-ce que t'as un mot de la fin avant ton départ?
J'ai pas de mot de la fin. Par contre, je vais peut-être rappeler mes tips, hein, que vous rappellerez pour le récap. C'est juste Mbappé buteur et puis France ou nul avec les deux équipes qui marquent. Voilà. Donc France ou nul, ça peut être coté à 2,15 de 20 et puis Mbappé à 3,20. Voilà.
T'en penses quoi, Daniel, des tips de Messi?
Moi, je suis à fond là-dedans. C'est exactement ce que j'avais imaginé. Les deux équipes qui marquent, je pense qu'il faut absolument taper là-dedans parce que j'ai vraiment du mal à croire que les équipes marquent pas. Mbappé avec la lourdeur et la lenteur de la défense belge, je pense que sincèrement il peut vraiment s'éclater.
On a la même analyse.
Après 1N ou on peut enfin 1N ou N2, pourquoi pas. Moi sincèrement sur le vainqueur du match, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Du coup faut tenter la double chance parce que se lever les meubles en tapant un 2/3 de possibilités. Plutôt un N aussi. Moi, je suis à fond là-dedans.
Ouais, super. Bah, écoute, Mazi, on va te dire au revoir. On se revoit demain pour le Tifcast Angleterre-Croatie.
Exactement. Et les gars, bonne soirée. Et puis, continuez à nous régaler. Voilà. Bah, demain. Et puis,
au revoir, Mazi.
Salut, Mazi.
Merci beaucoup.
Salut. Bye.
Bon, du coup, les gars, je vous laisse continuer pendant qu'on appelle le prochain. Intervenant.
Je dirais que c'est Vincent Lagaffe, c'est l'heure à l'appel. C'est le numéro vainqueur, là. Il y en a un qu'on n'a pas trop entendu encore ce soir, c'est Adrien.
Ouais, qu'est-ce que tu veux peut-être savoir mes tips? Alors, du coup, il vient de faire 15 minutes, en 15 minutes, il vient de faire glacière à Saint-Plon. Il est essoufflé, il l'a fait en courant. il est rentré en cours de jeu. C'est Béram, salut Béram.
Salut les gars, ça va?
Du coup, Adrien, le journal a été coupé, ouais.
Ça va, Béram?
Désolé, non, les gars.
Au top.
Honneur à l'invité.
Merci, vous parlez de quoi?
Bah écoute, on parlait
de la coupe de cheveux d'Abel Xavier.
c'était stylé à l'époque, hein, c'était stylé.
Ah, on sent qu'il l'avait, Béram.
Non,
le bled en vacances.
Salut, à tes cheveux.
Il a tenté la même teinture, mais c'est devenu roux.
Il était là.
On connaît ces histoires de teinture.
Du coup, Sylvio et Nico, avant qu'on revienne à vos tips, on va écouter un petit peu l'analyse de Béram. Ensuite, on pourra commencer à parler, parce que là, c'est bon. Tous nos invités sont là. Donc, je rappelle, il y a Daniel, c'est son premier podcast, sa première fois. Et quel moment pour lui. Il a fait une superbe rentrée, niveau stats et tout. Très bien. Et Béram,
ah ouais.
tu dois te mettre au niveau.
Ah ouais, à froid. À froid comme ça sur le France-Belgique, là, premièrement. Pour moi, c'est un match qui va être très indécis, avec notamment deux équipes qui me semblent vraiment de force égale.
Même si la France est placée comme favorite, j'ai été surpris vendredi soir par la capacité de la Belgique à changer d'attitude, de passer d'un jeu plutôt offensif. Et là sur ce match contre le Brésil, elle a su vraiment canaliser le pouvoir offensif des Brésiliens et a réussi à magnifiquement se projeter pour les punir. Donc j'ai été agréablement surpris par le coaching de Martinez. Il a su renforcer son milieu de terrain et pour se protéger. Je m'attends à ce que demain il nous fasse la même chose face à la France avec un Nasser Chadli et un Marouane Fellaini prêt à supporter leur défense.
Alors je sais pas pourquoi mais Béram a cité les deux seuls Marocains de l'équipe.
Que j'allais dire. Bon, c'est quoi le nationalisme là dans
Béram,
le débat. Ah les gars, j'arrive, je prends mon analyse et voilà.
Là, on a eu l'entrée de Daniel, c'était l'Africaine et là on a.
Ils sont belges.
Béram, Marocains. Là, Il à la 88e minute.
L'Africaine, t'as connu l'Africaine sérieusement? Tu te souviens de ce but en Champions League contre la Juve?
Bien sûr, je m'en souviens.
Ah là là.
Ah
là,
le lob.
De bons souvenirs.
Le mec, je m'en souviens, il rentre, t'as la caméra, il rentre, paf, plan d'après, ici. Ah, il la met à Peroudi.
C'était génial. Peroudi, ah quel gardien. Un peu massif, mais quel gardien. Donc voilà pour le match de demain. Demain, ce qui me. En tout cas de la France pour le moment. Mais ce qui me pose question, ça va être l'attitude. Comment on va s'en sortir? On va se sortir Mbappé face au Vertonghen, Vermaelen qui nous sont promis. Comment on va s'en sortir?
Bien. Et je réponds à tes questions.
Tu disais bien?
Avec beaucoup d'espoir.
J'espère aussi.
Mais parce que Magi, justement, expliquait qu'en termes de vitesse, Mbappé était, on va dire, le mec qui pouvait faire mal à la défense belge, un peu à l'instar de Douglas Costa, qui après sa rentrée en deuxième mi-temps a foutu un sacré bordel sur le côté gauche belge. Et du coup, son titre s'était un peu orienté sur une prestation d'Mbappé foutant le bordel sur le côté gauche belge.
Clairement, c'est ce qui risque de se produire. Maintenant, à voir déjà dans quel état il sera, parce que là, j'ai vu qu'aujourd'hui, dans toute vraisemblance, il ne s'est pas entraîné avec le groupe.
Tout à fait.
Il était en soins. Donc, est-ce qu'on nous cache une blessure ou.
Non, mais soit c'est un coup de bluff de Didier, années 90, Deschamps. Et du coup, il veut tenter ça un peu à l'esbrouf. Le match face à l'Uruguay, de toute façon, il a laissé des traces. Hein. Ils sont pris beaucoup de coups, pas beaucoup de temps pour récupérer. Et voilà, peut-être le mec s'est entraîné en marge.
Vous avez remarqué ce coup de vis un peu qu'il nous a fait face à Godin, le faux coup dans le ventre qu'il a pris. Une espèce de Neymarisation de Mbappé là.
Et j'ai pas apprécié la réaction de certains joueurs français au moment où Mbappé se fait encercler par
cinq
Uruguayens. Bah écoute,
oui.
t'as Giroud, je crois, qui vient un peu dans la mêlée. Je vois Griezmann qui assiste à la scène un peu stoïque. Écoute, là-dessus, on dévie un peu, mais j'ai pas forcément aimé l'attitude de Griezmann là-dessus.
Ouais, ben j'ai vu parce que ça m'étonne de Mbappé d'utiliser ce genre de ça m'a étonné de Mbappé de ce genre d'attitude d'utiliser un petit peu ce genre de vice. Bon après il en faut. Après ouais, le reste de l'équipe aurait pu venir le défendre face à la horde du Uruguayen, mais bon.
Face au charcutier comme dirait Iyad.
mais en tout cas sur le match de demain. Il y a côté belge, je vois quand même une belle montée en puissance de notre ami Kevin De Bruyne et qui a été vraiment très bon dans toutes ces ses choix, dans tous ses choix de passe contre le Brésil. Et
au même titre qu'Hazard.
Hazard, on en avait parlé déjà. On avait dit qu'il allait, utiliser toute sa capacité de dribble et de percussion pour enflammer la défense brésilienne, ce qu'il a fait. Et en fait, et surtout, Lukaku m'a surpris par ce côté excentré là. Ils étaient tous les deux très excentrés avec Hazard.
Et De Bruyne en faux neuf.
Oui, oui, ça a créé la panique hein, par moment dans la défense. Marcelo m'a surpris, il était
mal placé. Bah en fait, ça a obligé un peu, ça a obligé Miranda à se déplacer pour suivre Lukaku, et du coup, ça a libéré énormément d'espace pour De Bruyne et pour Hazard. Du coup, je sais pas si on aura la même chose sur ce match parce que mais je dû en parler. La France va moins se découvrir que le Brésil. C'est pas du coup j'ai du mal à voir une équipe vraiment jouer le contre face à l'équipe de France, sachant que l'équipe de France joue le contre également. Même en fait, si face à l'Uruguay, la France avait beaucoup de possession, avait à dominer en termes de possession.
On a un style bizarre. Hein. On a un style bizarre hein, en France. On s'adapte. Je trouve que ouais, tu vois une équipe qui joue vraiment différemment selon
l'adversaire. Bon, on a deux équipes qui s'adaptent.
Ouais. Qui va s'adapter à qui demain? Mais je pense que les Belges vont quand même se renforcer. Ils vont pas laisser la porte ouverte aux fulgurances de Mbappé parce que sinon ça. Ce serait trop risqué, je pense, pour eux. Mais.
Du coup, on va pouvoir parler du débat qui tient tant à Nico, c'est le cas de Thierry Henry. On t'a attendu, Béram, pour ça.
Si.
Et Nico avait un petit coup de gueule ou un gros coup de gueule, ça dépend, sur ce cas-là.
C'est pas un coup
dis-nous de gueule. Dis-nous tout, Nico.
C'est pas un coup de gueule, j'étais en train de parler du chiffon avec Majdi. C'est pas un coup de gueule. C'est j'ai envie de pointer du doigt, en fait, toute cette hypocrisie autour de Thierry Henry, de la part des médias français. Ils l'ont toujours... pas vraiment aimé, qui lui ont reproché d'avoir qualifié l'équipe de France en Coupe du Monde. On se souvient des hommes politiques qui avaient demandé des pétitions à rejouer le match. On se souvient de différents acteurs des médias qui disaient que c'était une honte que la France se qualifie comme ça.
On parle de Dechavanne qui avait demandé à ce qu'on rejoue le match également.
C'était du grand n'importe quoi. Toute l'ingratitude autour de ce joueur qui est Thierry Henry, qui a été Thierry Henry. Ce mec vient jouer avec un maillot de l'équipe de France deux jours avant la Coupe du Monde. Faut pas l'oublier quand même. Porter le maillot de l'équipe de France pour le match commémoratif France 98.
Ouais.
Il part en Belgique et là, demi-finale contre la France. Ah tiens, et pourquoi Thierry Henry il est pas dans le staff des Bleus? Mais vous vous foutez de la gueule du pilote, les gens là-haut.
Mais surtout que ces gens-là savent très bien pour quelles raisons.
Mais bien sûr.
Thierry Henry,
il faut arrêter cette hypocrisie.
On sait très bien que Thierry Henry n'est pas parmi les plus grands amis de Deschamps et que Deschamps marche énormément comme ça, comme le Gret, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles Thierry Henry.
On a répondu qu'il n'y avait pas de place dans le staff. Il n'y a pas de place dans le staff pour Thierry Henry.
C'est pas ce qu'a dit Giroud. Hein.
Oui, c'est pas ce qu'a dit Giroud, mais c'est ce qu'on dit d'autre.
Ouais, c'est vrai.
Donc, notamment quand il s'est engagé en Belgique.
Nico, ton coup de gueule, il est envers qui, du coup? Il est envers les journaleux ou...
Il a dit que c'est pas un coup de gueule, mais ça ressemble beaucoup à un coup de gueule, quand même, Nico. Hein.
Ça ressemble, ça.
c'est un coup de gueule, pas envers les journaleux. J'ai pas envie d'être mauvais avec eux, je vais les appeler les journalistes. Envers les journalistes, envers les médias, envers tout ce paysage. Le fait qu'on se souvienne, maintenant qu'on va jouer demain ou ce soir... Contre la Belgique et Thierry Henry, entraîneur des coachs, on se dit ah bah merde, pourquoi il est pas en équipe de France et il va pas crucifier, il va pas nous crucifier, si ça, bah, c'est un professionnel, il entraîne la Belgique, s'il peut nous la mettre, je suis désolé, mais il va nous la mettre.
Ah ouais, mais il aurait raison en même temps.
Mais bien sûr qu'il aurait raison, c'est son job.
Et sincèrement, vous lui en voudrez, enfin,
Enfin, absolument
mais
pas.
Mais moi, jamais de la vie, j'en veux à Thierry Henry.
Moi, j'en veux à la France de ne pas avoir su,
moi aussi,
entre guillemets, conserver Thierry Henry. Mais depuis le début, de toute façon, la gestion de l'après Naïsna, de toute façon, même la gestion de sa Coupe du Monde à Thierry Henry, c'était honteux, ou dans le sens où, au départ, Domenech ne devait pas le prendre et n'allait pas le prendre, puis après, il change d'avis et il le prend, mais du coup, tu te retrouves avec un Thierry Henry qui est totalement en marge du groupe, qui était là en espèce de prof de PS à suivre les gens, mais qui n'avait rien du tout. il n'avait aucun pouvoir alors que c'était Thierry Henry. Donc au final, il a été mêlé à l'affaire de Naïsna, mais le mec, il était autant spectateur que nous. Et après, on lui a demandé limite de rendre des comptes, alors que le mec n'avait rien à voir avec ça. Et on lui a jamais donné ce poids de toute façon. Donc,
mais tu sais que Henry, ben de mon point de vue, hein, en tant que joueur, n'a jamais été, en tout cas en France, n'a jamais été estimé à sa valeur. Il a été estimé à Londres, enfin à Arsenal. Là, il a été vraiment en Angleterre. Mais ça me rappelle Cantona, en fait.
Il a même été estimé au Barça. Hein.
Au Barça, c'était un peu compliqué.
Sa
partie au Barça, elle est. Il n'a jamais vraiment été non plus respecté au Barça. Mais après, c'était un petit bordel aussi, le Barça de l'époque. Sa première saison, c'est 2007-2008. Le Barça ne gagne rien. C'est la dernière année de Frank Rijkaard. Après, quand Guardiola arrive, il utilise Thierry Henry, mais il le met un peu en concurrence avec Eto'o. Après, il est estimé parce que c'est Thierry Henry, mais sa partie au Barça, elle n'est pas non plus mémorable.
Elle n'est pas mémorable.
Mais bref, je vois ce que Béram veut dire.
En fait,
après, le problème, c'est qu'en équipe de France, il a toujours été dans l'ombre de Zidane. Ça n'a jamais été son équipe.
Non, tu as, ça aurait dû être son équipe en 2010, mais ça n'a pas été le cas. En 2010, c'était vraiment une somme de d'individualité et il y a eu des problèmes qu'on connaît, hein, mais le staff n'était pas tout blanc non plus. En tout cas, pour revenir à aujourd'hui, tous ces, je suis d'accord avec Nico, hein, sur l'aspect faux débat. Moi, c'est des débats pour vendre du papier, pour vendre du tweet ou vendre ce que vous voulez. Henry, comme vous l'avez dit, c'est un professionnel. Il a été embauché par l'équipe nationale de Belgique pour aider.
C'est un deuxième adjoint.
Martinez, voilà, dans son travail.
C'est trois.
Et voilà, ce gars-là a une expérience extraordinaire et c'est le recordman des sélections en équipe de France. Et tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, on le respectera toujours. Moi, c'est un gars que j'ai toujours admiré en tant que joueur. Et aujourd'hui, demain, si la Belgique nous bat, je serai content pour Henry. Il y aura en finale de Coupe du Monde à nouveau, tu vois. Et en tout cas, le débat sur comment il devrait se sentir, à mon avis, doit se sentir un peu bizarre. Parce que il joue contre son pays, enfin il va aider un pays contre son pays, mais il n'y a pas de notion de traîtrise ou quoi. Il n'y a pas de un job. C'est pas parce que nous on ne s'exporte pas et qu'on ne sait pas s'exporter. Enfin, pour beaucoup d'entraîneurs français et autres, que Henry n'a pas le droit de le faire, tout comme Zidane l'a fait. Zidane, quand il est parti, je me souviens pas d'avoir vu Zidane entraîner en France.
Mais il devait justement, je pense qu'il regrette énormément le presque passage de Zidane à Bordeaux. Et au final, ça s'est jamais fait.
Voilà.
On aurait pu être champion de France.
On a pris Sagnol et Contento. On aurait pu avoir Zidane et Asensio. Voilà. C'est dommage.
Et en tout cas, si les étrangers sont capables de voir la qualité dans un futur entraîneur pour adjoint aujourd'hui ou pas français, les mecs ils vont le prendre, il y a pas de problème quoi.
Déjà l'étranger l'a vu comme consultant de qualité parce que
c'est vrai.
Au départ sa première reconversion c'était là-dedans et après je pense que lui-même il aurait pu intéresser par exemple Canal ou un truc comme ça, mais lui-même a voulu sortir du paysage médiatique français.
Mais à ton avis, pourquoi? Parce que
c'est bizarre. On connaît...
Bah oui, c'est, voilà, on comprend, on sait tous pourquoi. Et...
Non, je pense que c'est un mec de principe, tout simplement.
Et de toute façon, les principes,
c'est quelque chose de très important. Il n'est pas travaillé pour des gens qui, l'ont jamais, n'ont jamais estimé à sa juste valeur.
Mais,
propre pays.
Mais c'est clair. Mais je me souviens clairement de son, de ce but contre l'Irlande, là. Je me souviens de l'acharnement derrière qu'il y a eu dessus. Personnellement, je lui disais merci.
Bah oui.
Merci. On était en galère dans ce match-là.
On est en deux.
Ouais. Non, mais je comprends pas. Il y a des choses que je n'arriverai jamais à comprendre chez les médias. Chercher de s'auto-flageller, je sais pas, c'est un truc bizarre, quoi. Mais Henri, malheureusement, n'a jamais été respecté. Et en tout cas, les Belges ont très bien fait de le prendre parce que je vois, il a transformé Lukaku en génie quasiment du ballon.
Mais je pense que même au-delà des attaquants, il a donné cette chose qui manquait aux Belges, de passer d'une génération talentueuse que peut-être certains voyaient comme surcotée à, ok, maintenant on a, c'est la phrase, pas but, de Thierry Henry qui fait que les mecs face au Brésil, en deux occasions, les mecs arrivent à tuer le Brésil.
Exact.
Et tu le sens, ça sent le Thierry Henry, ça sent son expérience, sa manière de concevoir le football. Et peut-être que la Belgique n'avait pas ça dans les compétitions précédentes, en 2014 ou à l'Euro 2016.
J'irais plus loin pour la Belgique, parce que la Belgique, c'est quand même, c'est une sélection qui est vraiment difficile. Enfin, c'est difficile à, on va dire, à manœuvrer en tant que coach, en tant que... Regardez, ça marche mieux quand ils prennent des étrangers, j'ai l'impression, parce que tous les aspects flamands, wallons,
exactement,
on les sent pas là, c'est gommé, ça a l'air de bien se passer. Par le passé, c'était parti,
c'était le bordel.
Souvent compliqué, il y avait des clans, les clans entre par région, on va dire. Et mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Tu les vois.
Mais c'est pour ça.
Un vrai collectif.
Et Daniel en parlait tout à l'heure de l'aspect mental, et moi je suis totalement d'accord avec toi, Daniel. J'en parlais un peu en off avec Nico et Adrien. Le problème que la France peut avoir vis-à-vis des Belges, c'est ce complexe de supériorité qu'on a par rapport à eux, la manière de les regarder parfois un peu avec condescendance. Et l'autre, cet élément.
Et tout le monde a fait basculer sur l'aspect extra-footballistique, hein, tu parlais bien, sociétal.
Ouais, vraiment plus que dans le foot. Bah dans le foot, on les considère pas. Je me rappelle quand Lyon tombe dans le groupe de
la Gantoise.
La Gantoise, exactement. Tout le monde pensait que ça allait être du gâteau. Au final, Lyon s'est fait taper par la Gantoise. Lyon avait fini quatrième. Donc là-dessus, il y a cet élément qui, je pense, galvanise les joueurs belges. Et beaucoup en ont parlé. Beaucoup ont parlé de l'arrogance française. Et donc, ça peut vraiment galvaniser l'équipe. Et Béram t'en parle également. Le côté belge unifié, je pense que là, on est au-delà du sportif pour les Belges. C'est peut-être l'un des seuls moments où la Belgique est unie derrière son équipe. C'est plus la Belgique des Wallons, c'est plus la Belgique des Flamands, c'est la Belgique belge. Ça, c'est un aspect qui peut-être vraiment déranger l'équipe de France, dans le sens où tu vas te retrouver avec une équipe qui a 200%.
Après,
pour des raisons plus que sportives.
Je pense pas que les joueurs de l'équipe de France, parce que ce que tu dis par rapport à, on va dire, à cette prétendue arrogance, supériorité que peut avoir certaines personnes, comme certains Français envers la Belgique, je crois vraiment pas que ce soit quelque chose qui soit transposable, on va dire, à l'équipe de France. Parce que déjà, il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent très bien, qui ont joué ensemble. Certains même ont été formés en France, côté belge. Et je crois qu'il y a, je crois vraiment pas qu'il y ait cet aspect-là. En tout cas, on a une équipe qui est quand même assez jeune. Je pense pas qu'il y ait ce genre de mode de pensée, je dirais. Tu vois, peut-être dans les années 80, on aurait pu dire ça. Aujourd'hui, je pense que ça l'est moins. Le football, en tout cas en Europe, les joueurs français jouent un peu partout. Les Belges, c'est pareil. Ils ont l'habitude de se côtoyer. je pense qu'on il y a potentiellement ça doit
après pas l'arrogance
des joueurs français, ça doit vanner tu vois sur les petites différences
pas forcément pas l'arrogance des joueurs français mais après quand t'es belge je pense que t'es après moi je suis pas belge je pense que quand t'es belge tu vois toujours la France comme un peuple on va dire méprisant envers les belges et du coup tu grandis avec ça et Daniel en parlait c'était le cas des Portugais en 2016. Et les Espagnols pendant longtemps ont souffert de ça également avant qu'ils commencent à nous mettre des branlés. Les Italiens, il y a toujours eu une petite rivalité avec les Italiens. Il y a que en fait les Allemands que les Français n'ont jamais maîtrisé. Peut-être historique, je sais pas, mais on n'a jamais maîtrisé les Allemands, que ce soit sportif ou extra sportif, c'est jamais permis ça.
Ouais, Adrien, t'en penses quoi de tout ça, d'Henri et aussi de l'aspect
Par rapport à Henri, premièrement, parce que c'est un débat qui est super intéressant, je pense qu'il faut d'abord prendre en compte le contexte dans lequel est tiré Henri et être super pragmatique. Ça fait 2 ans qu'il est aux côtés d'un entraîneur qui a réussi en première ligue à faire gagner une coupe à Wigan et qui a fait de bonnes choses à Everton. Et c'est vraiment un tacticien qui monte. C'est un entraîneur qui va compter dans la décennie à venir. Et du coup, le fait d'être à ses côtés pour apprendre le métier et pourquoi pas devenir un des grands entraîneurs de la décennie 2020, c'est tout bénéf pour lui. C'est peut-être que il faut être réaliste, peut-être que cet aspect tacticien, au premier abord, Deschamps pouvait pas lui ouvrir. C'est peut-être aussi tout simplement que pas être, on va dire, focaliser l'attention s'il était dans ce tableau bleu. Là, au moins, il a été tranquille jusqu'à Sévré, jusqu'à vendredi soir où tout le monde s'est réveillé. Alors que ça fait 2 ans qu'il y est, 2 ans qu'on le voit rigoler avec Lukaku, Batshuayi et Benteke et ça choquait personne. Et là, c'est juste parce qu'il a foncé bleu. Par rapport à Thierry Henry, on va dire, l'espèce de cavalcade médiatique et tout, je trouve que c'est assez exagéré ce qu'on lui reproche. Et d'autre côté, je trouve que faut peser pour et le contre. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé non plus qu'il y a de la part des journalistes. Si vous parlez vraiment des journalistes, citer la séquence que vous avez vue avec Gilles Verdès ou avec Pascal Pro, faut totalement oublier ces gens-là.
J'ai même pas vu parce que moi, de toute façon, ces gens-là, j'y prête pas attention si tu veux.
Enfin... Et moi, c'est la séquence, tu vois, à laquelle je pensais. Mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait forcément. Je trouvais qu'il y avait des papiers assez justes, tu vois, dans l'équipe, dans plein de médias qui ont raconté justement ce côté. Le côté, finalement, regret d'une histoire qui aurait pu exister et qui, finalement, n'aura peut-être jamais lieu entre l'équipe de France et Thierry Henry en tant que coach. Parce qu'on parle beaucoup d'idées en tant que coach, ce qui est légitime par rapport à ses victoires au Real Madrid. Mais Thierry Henry, c'est vrai que, à part depuis vendredi, on n'a jamais... Moi, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu des gens dire « Ah, c'est dommage qu'il ne soit pas avant vendredi. »
Je dis pourtant, sincèrement... Pourtant, je pense que Thierry Henry, il a vraiment la fibre d'un coach, pour le coup.
Ouais, ça c'est clair, ouais, ça se voit quand il écoute, il conseille. Il peut avoir ce côté à la fois extrême connaissance du milieu, parce que je pense que c'est quelqu'un qui vraiment connaît bien le ballon, et en plus, ce côté fraternel qui peut transformer en côté paternel avec les joueurs. C'est-à-dire que quand Thierry Henry te parle, tout le monde l'écoute.
T'as un grand frère.
Les joueurs l'écoutent. Hazard, il le dit. De Bruyne le dit. Lukaku, il le dit. Même le Roberto Martinez le dit. Il a une parole qui se transmet parce que c'est Thierry Henry. Et après, par rapport à l'autre débat, finalement, c'est vrai que ce côté, peut-être, rivalité qu'on a avec les Belges, on le retrouve finalement dans d'autres sports, peut-être plus. J'ai l'impression que, moi, quand je pense à France-Belgique, c'est plus de la Coupe Davis. Finalement, c'est plus du cyclisme. Alors que le football, c'est vrai que la dernière fois, c'était sur le match au Stade de France, nous avions battu 4-1, on revient 4-3 à l'arrache, mais finalement, au football, c'est presque deux frères qui se retrouvent après 10 ans d'absence. J'ai l'impression que, même moi, je suis un peu désemparé parce que, par rapport à l'Argentine, à l'Uruguay, on pouvait s'attendre à ce qu'on a en face. Là, on ne sait pas parce que il y a un contexte de voisins qui est hyper particulier, mais je pense que plus de voisins, c'est presque un match de première ligue par rapport au profil.
C'est clair. De toute façon, la première ligue est au top, hein, sur cette Coupe du Monde. Une réussite pour le championnat préféré de Nico.
Non, c'est pas mon championnat préféré. Mon championnat préféré, c'est la Ligue 1.
Merci.
Je ne suis pas seul.
C'est celui que je suis le plus, forcément. Après,
on va le championnat étranger préféré.
Ah, j'aime beaucoup la Serie A. Et Marocanquis. Enfin bon.
Alors du coup, d'autres éléments dont vous voulez parler sur ce match, les à côté de ce match. Je pense qu'on a couvert assez pas mal de choses de toute façon.
L'absence de Meunier peut-être.
On en a parlé, ouais, mais c'est.
Ouais.
Écoute, ça parle de Vermaelen ou de Thorgan Hazard, donc deux profils un peu différents. Soit soit tu défends au maximum avec Vermaelen, soit tu me proposes un joueur plus offensif. Moi, je partirais plus sur le mec offensif, sachant que de l'autre côté, t'as un défenseur central de formation qui joue arrière-gauche et un milieu central ou milieu défensif que tu mets milieu gauche. Donc, je me dis franchement, c'est pas forcément Matuidi qui va profiter des boulevards laissés sur le côté gauche. Hein. Sinon, on l'aurait vu déjà face à l'Argentine.
D'ailleurs, Matuidi à ce match, sur ce match-là, alors, il y aura plus un travail de comme face à l'Argentine, plus pour comme tu dis, un travail plutôt défensif. Donc en effet, en face, il n'y aura pas.
Moi, je suis. C'est différent. Je trouve dommage qu'on remette Matuidi alors qu'il a, pour l'instant, il fait une Coupe du Monde globalement moyenne. Alors que j'ai bien aimé moi la prestation de Tolisso dans le caractère, dans ses qualités techniques. Je trouve, on parlait de Martinez comme étant un coach flexible qui n'a pas hésité à changer et faire les ajustements. Moi, Deschamps, j'attends toujours ces ajustements sur cette Coupe du Monde. Il a eu, entre guillemets, la chance d'avoir ces deux latéraux qui se pètent et du coup, on n'a pas eu Benjamin Mendy qui avait un genou en moins et de l'autre côté, Sidi Bé qui, franchement, c'est son cousin qui joue cette année. on a eu Pavard et Lucas Hernandez qui se sont révélés être bons. Et de base, c'est parce qu'il y a des blessures. C'est grâce à ça.
Mais en fait, t'as raison, parce que on a quand même énormément de chance. Parce que le fait de prendre Mendy, c'est une erreur, hein. Une grosse erreur. En général, quand tu fais ce genre d'erreur, ton autre défenseur se blesse. Et là, ouais. tu te retrouves dans le.
Avec Kimpembe, tu te retrouves avec Kimpembe arrière-gauche.
Kimpembe, je crois qu'il a pas joué arrière-gauche depuis les U19, hein. Donc,
j'ai l'impression. Vas-y, Adrien.
Non, par rapport à Mendy, juste, si je peux me permettre, je pense que le pari était risqué, mais il fallait le prendre. Moi, je l'aurais fait pareil, j'en veux pas à Deschamps de l'avoir pris, même s'il est blessé. Fallait le tenter. Il y a un joueur qui s'est révélé, qui s'appelle Lucas, tant mieux pour nous. Mais, moi, Mendy, voilà, il s'est répété, mais moi, j'aurais tenté aussi. Fallait faire le coup, voilà.
Mais en fait, j'ai l'impression, là-dessus, on savait plus globalement que c'était quasiment impossible pour Mendy d'être vraiment opérationnel sur cette Coupe du Monde. Le mec se remet d'une énorme blessure. Il a joué 30 minutes avec City. Tu savais qu'il allait pas être en forme. J'ai l'impression qu'il a pris également pour la vie du groupe. Où tu vois, eh ben, Mendy, c'est un mec sympa, il apprécié dans le groupe. Il a eu cette logique, encore une fois, de groupe et de se dire, bon, ben, je prends Mendy parce
autant
que moi,
qu'il paye et son ensemble.
Exactement. Il les a pris pour mettre l'ambiance.
Ouais, et puis, il y a un autre aspect pour l'arrière-gauche. C'est surtout que, si tu prends pas Mendy et Lucas Hernandez, tu prends qui? Parce que on parle de Kurzawa, mais Kurzawa, on sait qu'il y a eu une vidéo sur Deschamps qui a existé. Alors, elle n'est pas sortie dans les médias, mais je pense que Deschamps il est conscient de ce qu'il a vu. Je pense sincèrement qu'avec Deschamps, Kurzawa on le verra plus parce que je pense que sincèrement Deschamps il a dû être vexé et justement. Et sinon, l'autre arrière gauche aurait dû être Lucadine, mais quand on voit la saison qu'il a fait au Barça. Très honnêtement, Deschamps, il avait vraiment, vraiment pas beaucoup de choix. Hein.
Ouais. Il s'est dit, bon, bah, je prends un mec sur une jambe et un autre.
Un mec sur une jambe qui est bonne ambiance, qui est sympa. Je pense que Mendy, c'est le mec qui aurait dû être titulaire, mais qui l'est pas. Et je pense que c'est pas un mec qui casse la tête à Deschamps quand il joue pas. Bon, en plus, là, il a la blessure contre lui. Donc vraiment, il a vraiment aucun argument pour dire qu'il peut jouer. Mais même s'il n'était pas blessé, je pense que si Deschamps avait dû faire le choix, je pense pas que ce soit un mauvais gars, Mendy. Alors que d'autres mecs, on sait que ça leur a desservi d'être potentiellement des gueulards quand ils sont pas sur le terrain. Et je pense que Thiago, il a pas été. Mais bon, là, on dévie un peu. Mais je pense que Thiago, il y a pas été, c'est en partie à cause de ça.
Après, ce qui est dommage, c'est que parfois, je pense que t'as besoin un peu de gueulards, de mecs qui ont envie de jouer, qui ont l'écrou. Mais quand t'es un coach qui va faire des changements. Deschamps, globalement, son équipe, on la connaissait avant la Coupe du Monde. On a à peu près la même, on n'a pas eu de changement, à part, du coup, les cas particuliers de Sidi Bé et de Benjamin Mendy. Du coup, moi, ça va m'intéresser sur ce match, c'est de voir si Deschamps, si déjà Martinez propose, un vrai match-up tactique et de voir la réaction de Deschamps face à ça. Est-ce qu'il va prendre des risques? Faire des ajustements. Est-ce qu'il va sortir des schémas habituels où je fais sortir Griezmann pour faire entrer Fekir, je fais sortir Giroud pour faire entrer, ou soit Giroud, soit Mbappé
pour faire rentrer Dembélé? Est-ce qu'il va aller au-delà de ça? Est-ce qu'il va tenter des choses? Tenter par exemple Fekir dans son milieu à 3? Est-ce qu'il va faire des choses?
J'ai énormément de mal à croire à ça, parce que honnêtement, au niveau, c'est un fin tacticien et je pense que c'est un super entraîneur, mais dans le genre mec borné, je pense que là on en tient bon.
Le problème, c'est que dans une Coupe du Monde, t'as toujours des moments où ton équipe, elle est en énorme, énorme difficulté. Et le champion du monde, pour moi, il sort à partir du moment où t'arrives à élever ton niveau et à faire des ajustements face à ces difficultés. Hormis les 5 minutes entre les 10 minutes entre le deuxième but argentin et la frappe de Pavard, on n'a pas eu le temps de tester la France. La Belgique a été testée dans ses retranchements. Mener 2-0 face au Japon, à 30 minutes de te faire éliminer de la Coupe du Monde, en 8e face au Japon, de te taper une honte monumentale, on a vu la réaction belge. Moi, je veux voir la France dans cette configuration. C'est pour ça, et on en parlait un petit peu en off, on a du mal à croire encore, à s'enflammer sur l'équipe de France. C'est peut-être à cause de ça. On n'a pas encore vu une France comme en 98, une France en prolongation avec un but en or, une France dans une séance des tirs au but. On ne l'a pas encore vu. Du coup, on a du mal encore à s'enflammer parce que pour l'instant, mine de rien, la France, elle n'a pas été mise en difficulté à part face à l'Argentine. Et encore, c'est particulier ce match face à l'Argentine.
Ouais.
Parce que, je sais pas ce que vous en pensez du coup par rapport à ça.
Ouais, c'est sûr que si demain, admettons, on se retrouve avec une Belgique où le score rapidement, genre en première ou en première mi-temps ou en début de deuxième, va falloir se réinventer. Et ça, honnêtement, ça va être nouveau pour Deschamps, pour le groupe dans la Coupe du Monde, parce que comme tu l'as dit, ils ont jamais vraiment été en galère depuis le début. C'est difficile à imaginer, mais c'est là qu'on va voir si Deschamps, s'il a réellement des armes, s'il a une vraie réflexion, parce que en face de lui, il a l'air d'avoir un type qui a vraiment beaucoup de réflexion. Et qui a un sens tactique qui est au moins aussi bon que le sien.
Totalement. Du coup, on va passer aux tips. Si vous avez des choses à ajouter, très bien. Daniel, tu commences?
Moi, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Je pense que les deux équipes qui marquent, c'est indispensable parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois pas comment il peut en être autrement. Les buteurs, c'est un peu difficile parce que les défenses, elles vont être assez serrées, je pense, et du coup, c'est assez difficile de citer un mec en particulier. Forcément, on pense à Mbappé parce que la défense de la Belgique, c'est pas forcément la plus rapide qui soit. Mais on peut tenter aussi le but de la tête parce que les coups de pied arrêtés, je pense qu'ils vont être importants dans ce match-là. Les Belges, c'est des grands gabarits sur la tête. On a vu à quasiment tous les matchs, ils ont soit marqué de la tête, soit marqué sur un coup de pied arrêté. Et bon, contre le Brésil, c'était pas vraiment un but de la tête, c'était plus un but contre son camp de Fernandinho, mais bon, c'était quasiment ça. Je pense que 1 et N, les deux équipes marquent, c'est le truc le plus safe. Après, si on veut tenter un truc un peu plus direct, juste la France gagne, les deux équipes marquent, c'est cool. Cool, ça se tente, ça doit être une belle cote. Vraiment, j'insiste vraiment beaucoup sur les deux équipes marques. Pour moi, faut baser le pari autour de ça. Après, viser plus une équipe, viser plus l'autre, viser plus les matchs nuls. Je sais pas, mais par contre, je pense qu'il y aura, il va y avoir assez peu de buts, je pense, parce que ça reste une demi-finale de Coupe du Monde. Il y a des formules à 0-0 ou 1 partout qui payent à 3,60 sur une Ibet que je trouve super cool parce que moi je pense que 0-0 ce sera pas le cas, mais match nul avec peu de buts, j'ai du mal à croire que ça fasse 2-2. Alors si on tente le score exact, pourquoi pas tenter 1 partout dans les 90? Je pense que là ça doit être des cotes assez monumentales et je trouve que c'est un truc qui tient la route.
Très bien. Du coup, moi je te suivrai sur le but de la tête, j'aime beaucoup ce pari. Béram, pendant tes 15 minutes entre Glacière et Simplon, t'as eu le temps de réfléchir à des trucs.
Ouais, j'avais déjà préparé le terrain, t'inquiète pas.
On est à 14-28.
Ouais, je vous suis. Non, pas de. Là, on est dans des bonnes codes.
C'est la dernière semaine du Tipcast, hein, c'est notre fin de saison, donc là, on sort que des gros.
Non, mais c'est clair, et c'est ce que j'ai préparé en vérité. Donc, je pars sur un match nul, parce que moi. Moi, France-Belgique, j'arrive pas à les départager. Et je crois que demain, on va avoir du mal à se départager avec nos frères belges. Donc, je vois le match durant les 90 minutes, c'est coté à 3,30. J'avais aussi, en effet, le score exact un partout, que je vois pareillement les deux équipes marquées. Trop de pouvoir offensif des deux côtés. Le un partout est coté à 5. Et enfin, mon pari le plus valuable. La France se qualifie au tir au but demain soir, les amis. Je vous le dis parce qu'on va vivre une soirée très difficile. Ça va être long.
L'oracle a parlé.
Ça va être passionnant. L'oracle,
pour l'instant, n'a jamais eu bon. Hein,
je m'en suis sorti l'autre jour avec les Russes là. Enfin bon.
Et t'avais vu le but de Griezmann contre Uruguay.
Merci. C'est important. Je pense que Griezmann va faire un match demain qui va être intéressant, plus que celui de l'Uruguay, mais encore un peu plus, qui était déjà plus intéressant que celui de l'Argentine. Donc, demain, je pense que Griezmann va répondre à Hazard. Le but de Griezmann est coté à 3. Et la France se qualifie au tir au but. Demain, on va souffrir, mes amis, je vous le garantis. Ça, c'est coté 10. Voilà. Je m'arrêterai là pour mes tips.
C'est déjà pas mal. Adrien.
Alors moi je suis d'accord avec deux paris qui ont été dits sur France ou nul avec deux équipes qui marquent, ça me paraît pas mal, et le but de la tête, parce que je pense que c'est un secteur où ça va se jouer. Moi je rajouterais aussi un pari qui a été dit, je crois que c'est le nul en sec. Je pense que la France va aller pour la première fois et le Brésil aussi en prolongation. Ça peut y aller en 98. Et enfin la spéciale Steph Curry, je vais tenter
pas de vous marquer de la tête. Ah.
Pogba buteur, je crois que j'ai vu à 5,50. Vu sa montée en puissance, vu ce qu'il dégage, vu il y a quelque chose qui se crée autour de Pogba. On en a pas parlé, mais cette fameuse dot dans l'équipe qui reflète évidemment pas ce qu'il est en train de faire dans cette Coupe du Monde. Voilà, je sens bien Pogba, donc demain, je crois qu'il est à 5,50.
C'est vrai.
Et qui est-ce qui a mis la note de Pogba,
un mec qui devait pas être ami avec Pogba, un mec qui Pogba n'a pas dû donner des infos.
Est-ce que c'est... Monsieur Dédé, là. Vous voyez de qui je parle.
Ouais, on voit, mais je sais pas. Ouais.
Tu peux citer son nom, je pense pas qu'il nous écoute. Hein, donc,
je pense pas qu'il nous écoute, hein, Béram.
Je refuse de citer ce nom.
Vu qu'on n'arrête pas de les critiquer, je pense pas qu'on va avoir des entrées chez l'équipe. Donc, franchement, tu peux balancer sur eux. Hein.
On sait jamais, un jour je peux taffer chez eux. On sait jamais.
je pense pas que c'était lui. Bon, bah, du coup, on sait pas, mais le mec qui a mis 5 à Pogba, franchement, comme dirait Alexander Frey, t'as des tomates dans les yeux. Nico, toi qui as pas de tomates dans les yeux, qu'est-ce que tu penses de quel type ça tue sur ce match?
Bah, moi, j'ai un type un peu spécial qui a été cité par Daniel, c'est la France gagne les deux équipes qui marquent, du côté à 4,50. Et puis, j'ai mon petit chouchtif. Celui-là, il est passé en fin de saison. Avec Nice mène à la mi-temps, Lyon gagne à la fin du match. Donc la Belgique mène à la mi-temps et la France gagne à la fin du match. C'est côté à 26, messieurs.
Oh mon Dieu.
Après un doublé de Benjamin Pavard.
Non, un doublé de... But de Lukaku sur un cafouillage à la 42e, on rentre la tête basse. 55e minute de jeu, égalisation d'Mbappé. 78e, il crucifie la Belgique.
Putain, on en a des oracles sur cette émission là, hein.
C'est la fin de la Coupe du Monde, attends. Mais...
Bon, écoute, moi je suis d'accord avec le BTTS. Je pense que de toute façon, ça c'est un choix judicieux à chaque fois si vous pariez sur un résultat sec de le coupler au BTTS parce que ça fait bien gonfler la cote. Dur de décider sur un résultat sec. Moi, j'ai du mal à passer à côté de la cote belge. Parce que je trouve vraiment la cote intéressante. J'aurais imaginé des cotes plus équilibrées. Je verrais soit les Belges, soit le nul. Donc peut-être tenter Belgique ou nul et les deux équipes marquent. Après, j'avais envie de tenter un buteur parce qu'il n'a toujours pas marqué dans cette Coupe du Monde. Peut-être un peu revanchard parce que Henry l'avait un petit peu clashé à l'époque où il était chez la BBC. Bah, c'est Olivier Giroud à 3,55. Je dirais pas Giroud de la tête parce qu'il aura du mal à s'imposer dans le jeu aérien. Donc ça peut encore passer. Et j'avais noté également Griezmann buteur à 2,90 parce qu'il a marqué sur les deux derniers matchs. Je pense pas que Courtois nous fera une Mislera. Et je me dis que Griezmann va falloir quand même qu'il monte l'exemple. Donc je partirai là-dessus. Et surtout un conseil, c'est de profiter en live parce que je pense que ce sera un match à but. Donc vraiment à profiter en live et tenter des coups en live sur ce match.
Profiter du match, regardez tous le match, tous.
Ouais, je pense que tout le monde va le regarder ce match.
Non, parce que on fait pas assez d'audience télé. On fait pas assez d'audience télé, je trouve.
Parce qu'il y a Wimbledon en même temps.
Ouais. Bah.
D'ailleurs, putain, ils ont
en 2016, la finale, Coupe du Monde, il faut 40 millions de téléspectateurs, c'est tout.
La finale de Wimbledon en même temps qu'une potentielle finale de l'Angleterre, ça va être marrant, ça. Bon bah du coup.
Personne n'aura envie de voir la défaite de Federer, hein, comme ça.
Ouais, non, il va perdre en demi face à Isner, tu verras. On termine par quelque chose. Pas de récap vu qu'on vient de balancer tous nos tips. Pour rappel, le tips de Majdi, c'était Mbappé marque et il avait tenté Mbappé buteur d'un côté et Mbappé plus équipe de France. Donc voilà. Bah merci les gars. Long.
Merci à toi.
Merci à vous. Ouais.
Merci à vous, les gars. Merci vraiment pour cet excellent débat. Moi, j'ai kiffé.
Très, très bon. Merci à vous. Merci, Vera. Merci, Adrien. Merci, Daniel, pour ta première. Bon, avant de terminer, comment ta première, ça va?
Ouais, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir de parler avec des mecs qui comprennent quelque chose parce que c'est un peu compliqué de parler de foot avec des gens qui captent quelque chose aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir. Et puis, bah.
Tu dis ça par rapport à Majdi, c'est ça?
Ah, bah, non. Mais j'espère que c'est la première de plusieurs. J'espère que je pourrai être là plus souvent. Parce que c'est cool. Et puis, j'espère que le maximum de tips, ils vont passer demain.
Ouais, t'inquiète. On réinvite toujours une deuxième fois.
C'est cool, merci.
Bon ben merci les gars.
Merci au monteur, merci au réalisateur, merci au producteur, merci aux intermittents du spectacle.
Merci les gars.
On remercie également Josy de la Compta.
Allez les bleus, hein.
Allez les bleus, bien évidemment, je suis stressé, c'est pour ça que je déraille, je suis fatigué.
En fait, j'ai envie que ce podcast dure longtemps parce que je suis pressé d'être demain à 20h, c'est ça le problème, tu vois.
Allez, bonne nuit.
Salut à tous les gars.
Bonne soirée les gars.
Salut les gars.
Ciao.